C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Bon, ce matin, je commence par la journée de la Terre. Il y a eu des manifestations hier. Il y a un sommet important qui se déroule à Ottawa avec des délégués venant de 174 pays, notamment pour essayer d'avoir une économie où le plastique est moins important. C'est majeur comme discussion parce que ça nous amène vers une rencontre au sommet pour trouver des stratégies pour couper notre dépendance au plastique. Et au plastique sous toutes ses formes, et c'est vrai dans, par exemple, des équipements médicaux, c'est vrai pour les voitures, c'est vrai dans notre consommation de tous les jours, et on le sait, on en parlait la semaine dernière, il y a un enjeu de récupération de ces matières plastiques qui finissent dans des champs, dans des dépotoirs ou encore dans la mer où il y a des amoncellements de bouteilles vides qu'on retrouve. Le ministre Stephen Guilbeault qui a dit qu'on a une opportunité historique pour changer nos habitudes. L'industrie veut avoir un message clair, mais c'est sûr que le réflexe, c'est d'acheter du neuf et pas de recycler. C'est vrai pour les entreprises, puis c'est vrai aussi pour les individus. Puis ça m'amène à vous parler de cette journée de la Terre où je fais le tour depuis la fin de semaine, pas encore ce matin, sur les papiers qui s'écrivent. Il y a comme deux façons de voir ça. Il y a des gens qui sont très militants, puis parfois avec un ton alarmiste, et je suis pas certain que c'est convaincant pour beaucoup de citoyens. Puis il y en a d'autres qui ont une approche, je dirais, plus constructive, plus positive, en disant, regardez, c'est irréversible. Peu de gens contestent encore la réalité. On le voit tous, on le mesure avec les événements extrêmes puis les températures beaucoup plus élevées. Comment on peut faire pour changer nos habitudes? Et je vous donne un exemple ce matin de pratique qui a été corrigée, mais qui donnait absolument rien. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on a eu une discussion avec les autorités du Cégep Saint-Laurent à propos de l'écopuce. C'est quoi ce l'écopuce? C'est une passe pour permettre aux étudiants d'utiliser le transport en commun sans restriction. Mais l'idée est excellente, c'est qu'on a imposé le montant à 276,25 $ dans la facture des frais de scolarité. Que tu prennes l'autobus ou pas, tu dois payer. Et le Cégep Saint-Laurent tentait de nous faire croire qu'il y avait comme une adhésion des gens, c'était incroyable. Et c'est ça qui choque à un moment donné. La preuve, c'est que, et je cite, « Grâce aux différentes discussions avec les membres de la communauté, nous constatons que nous n'avons pas l'adhésion nécessaire pour mettre en œuvre cette nouvelle mesure. » Parce que la consultation, entre vous et moi, était un peu bidon. « Le nombre de demandes d'exemption est maintenant trop grand. On met un terme à l'implantation, puis les gens qui ont déjà payé pour la prochaine session seront remboursés. » Comprends l'intention, mais tu peux pas rentrer ces mesures-là dans la gorge. Ce qui m'amène à vous parler des maires du Grand Montréal qui jonglent avec l'idée d'augmenter la taxe sur l'immatriculation. Tout ça pour exercer une pression sur le gouvernement du Québec concernant le financement du transport collectif. D'abord, les maires qui veulent piéger dans votre portefeuille et augmenter mettre une taxe supplémentaire sur l'immatriculation ou l'augmenter, veulent pas trop jaser. Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut pas de taxes, mais on veut pas non plus réduire la qualité du service de transport collectif. La presse, ce matin, nous dit, par exemple, que les maires ont menacé Québec d'imposer jusqu'à 228 $ en taxes par auto sur le territoire métropolitain dès l'an prochain pour aller chercher de l'argent pour le transport en commun. Une augmentation de 280 % de la taxe. Une lettre envoyée à la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. Ça se passe au début du mois d'avril. Et le maire de Laval, qui sera avec nous, dit également que c'est la panique à bord et qu'il n'y a aucun espoir à l'horizon pour ce qui est du transport en commun. Vous avez la ministre qui promet, là, qui promet un plan complet sur le transport en commun puis la création de son agence pour les grands travaux sur les chantiers. Ce sont ces deux priorités très visibles. Et là, vous avez les sociétés de transport qui font l'objet d'un audit, là, de vérification de la part de Transport Québec, du ministère des Transports. Est-ce que c'est bien géré? Est-ce qu'il y a des économies à faire? Et la grande question, c'est quelle sorte de transport en commun on veut. Puis est-ce que les gens veulent prendre le métro, veulent prendre l'autobus? Et il y a des restrictions qui sont de plus en plus claires pour nous inciter à laisser la voiture de côté. Les déplacements en auto, notamment à Montréal, c'est, vous le savez tous, un cauchemar. Mais là, pas certain qu'une augmentation aussi forte de la taxe sur l'immatriculation va donner quelque chose. C'est comme si on vous présente une facture constamment et tu cherches les services. Et c'est pas toujours une adéquation. Puis il y a des gens, là, on va se le dire, qui ont fait le calcul qui est réel. C'est plus vite en auto que si on prend le transport en commun à partir de certains coins dans la ville. Et on va également parler de l'histoire de la fameuse Mustang du directeur de la police de Laval ce matin. C'est un dossier qui revient. On a acheté une voiture qui a coûté près de 100 000 $. Puis c'est le directeur de la police de Laval qui l'a utilisé à des fins de test. Et le journal dit qu'il n'y a pas de rapport qui a été fait sur l'efficacité du véhicule. Pourtant, c'est la raison qu'on a donnée pour justifier l'utilisation de l'auto par M. Brochet. Puis là, la réponse qu'on nous dit, ben, c'est le gars qui reste le plus loin du bureau. Fait que c'est une façon de mesurer l'efficacité de l'auto. Comment? Et je sais que le maire est pas content. Là, je pense qu'ils ont eu une discussion sur ça. Maintenant, réseau de la santé. On parlait vendredi des listes d'attente. Le ministre Christian Dubé est avec nous. On est conscient au gouvernement de cet enjeu. Mais ce matin, la presse nous arrive avec son espèce de palmarès des salles d'urgence. Il y avait déjà un bon tableau dans le Journal de Montréal vendredi. Et on se rend compte de quoi? C'est que la durée moyenne de séjour s'est élevée pour l'ensemble des hôpitaux de la province. Il y avait eu une baisse des cas de COVID-19, la fameuse cellule de crise. Et force est de constater qu'il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers l'urgence, que les séjours sont prolongés. Sur les 84 salles d'urgence au Québec, 57 sont dans une situation pire qu'il y a 5 ans. C'est plus que la moitié. Et c'est toujours le même phénomène, c'est-à-dire des lits occupés par des gens qui devraient être envoyés dans une autre ressource, centre de soins de longue durée, mais il n'y a pas de place. C'est à peu près 10%, 12% des lits occupés. Et si ces lits sont occupés par des gens qui n'ont plus besoin d'être à l'hôpital, ça veut dire qu'on ne peut pas monter sur les étages les patients qui sont à l'urgence. Ce qui fait que le temps de séjour à l'urgence s'allonge. Et là, ce sont les gens qui ont besoin d'être hospitalisés. Je vous parle même pas du temps d'attente réel avant de voir un médecin. Et c'est toujours la même chose. On ne sait pas par quelle porte entrer. Puis le gouvernement est conscient de ça. Christian Dubé nous a dit... Ça s'améliore, il faut se donner du temps, l'agence va arriver, mon objectif c'est de mettre en place les paramètres pour que ça fonctionne, mais c'est de plus en plus des cas lourds, des gens qui ont une série de problèmes, puis on manque d'effectifs, puis on manque d'espace dans les salles d'urgence. Coup d'œil sur la scène internationale maintenant, tout d'abord avec Jean-François Lépine ce matin, on va parler de l'aide américaine qui a été votée en fin de semaine, 61 milliards qui seront versés à l'Ukraine. C'est une guerre qui s'enlise. Les forces de l'OTAN disent que les retards en paiement et en envoi d'équipements militaires, on pointe du doigt entre autres le Canada, expliquent en bonne partie l'espèce d'enlisement du conflit et la crainte de voir l'Ukraine perdre cette guerre ou à tout le moins céder une partie de son territoire. Et aussi du côté de Gaza, tout d'abord, le premier ministre Netanyahou se met en colère au sujet de sanctions américaines imposées à une unité de l'armée israélienne qui aurait posé des gestes d'une extrême violence, notamment à l'endroit de Palestiniens, des personnes âgées qui auraient été tabassées. Il y a enquête interne et là, les Américains disent on va imposer des sanctions concernant directement ces personnes impliquées. Et Israël répond que ça peut pas se faire et que c'est une attaque sur la façon d'opérer les forces armées en Israël et que ça relève de l'interne. Entre-temps, Rafah, les opérations militaires continuent. Beaucoup de civils ont également perdu la vie. Et c'est un conflit encore là qui s'étire. On a appris, entre autres, que l'Iran, face aux pressions de l'étranger, avait fait preuve d'une certaine retenue dans les bombardements, dans sa réponse à l'attaque de l'Iran. Et aussi ce matin, en dernière heure, on apprend que le responsable des services de renseignement militaire de l'armée israélienne a été limogé. Tout ça pour avoir mal lu les événements qui ont mené à cette guerre, cette attaque du Hamas contre des Israéliens. Alors, avec Jean-François, on va regarder ça. Et puis, un mot pour vous dire que c'est officiellement vraiment aujourd'hui que s'amorce le procès de Donald Trump. Tout ça, évidemment. Puis, je vais être clair parce qu'il y a des gens qui m'ont encore écrit en fin de semaine en disant, il peut bien coucher avec qui il veut, ça nous regarde pas. C'est vrai. La raison, c'est pas l'adultère ou c'est le recours à une escorte ou une vedette du porno. C'est qu'il a pris de l'argent, falsifié des documents pour verser un montant de 130 000 $ par un intermédiaire pour étouffer le scandale. Et c'est donc de la manipulation de documents et de fonds qui, normalement, entraient dans des dépenses électorales. C'est pas une question morale qui est en cause, mais vraiment des infractions criminelles. Il y a 34 chefs d'accusation. Le jury est sélectionné. Et quand vous faites un survol rapide, beaucoup de gens pensent que malgré la preuve qui sera présentée, ça sera pas suffisant pour obtenir une condamnation. D'une part. Et d'autre part, l'effet jusqu'à maintenant montre qu'il s'en sort très bien malgré tout ça. Est-ce que demain matin il est condamné, l'opinion publique va changer peut-être? Mais je vous dirais, l'espèce d'insatisfaction, la grogne contre Biden demeure quand même extrêmement forte aux États-Unis. C'est le candidat, c'est le président sortant, mais c'est pas le choix vraiment des Américains. Je veux revenir sur deux ou trois nouvelles ce matin. La première, je vous disais que pour le transport, Geneviève Guilbeault a demandé des vérifications sur les dépenses. C'est géré comment la Société de transport de Laval? C'est géré comment la Société de transport de Montréal? Au même moment, Québec demande une vérification chez Urgence Santé. Donc, on va nommer un auditeur indépendant pour examiner, et je cite Le Devoir, là, de manière approfondie l'organisation du travail et l'utilisation des budgets. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'Urgence Santé est peut-être pas trop efficace. Qu'en gros, des compagnies privées qui livrent 99 et 100% des heures autorisées par le ministère, c'est comme ça que ça marche. Ailleurs qu'Urgence Santé, ce sont des coops, des entreprises privées. Et 99, 100% des heures sont livrées. Urgence Santé, on tombe à 80%. Je rappelle que le patron d'Urgence Santé trouvait que la solution, c'était de nationaliser l'ensemble du service. Ça, c'est le gars qui livre moins que les autres, qui prétend ça. Donc, il y aura vérification pour voir quels sont les problèmes chez Urgence Santé. Et il y en a pas mal, d'aller recruter notamment des effectifs. L'autre chose, le BEI, le Bureau d'enquête indépendante. Tu sais, c'est toujours comme ça le vendredi, t'annonces les nouvelles pour essayer de noyer l'affaire. Après 5 ans d'études, a finalement remis son rapport sur les fuites de l'UPAC, l'affaire Guy Ouellet, au DPCP. Il paraît que c'est une méga brique, là. Il y a pour 1000 pages de documents, me dit-on. La question, à quel moment le DPCP, qui doit regarder ça sans pression, avec sérénité, va nous dire si, oui ou non, il y a matière à accuser des gens qui sont responsables des fuites dans les médias, et pas quelques éléments d'une enquête, là, des infos complètes, des clés USB avec de l'information, donc confidentielle, sur l'UPAC. Et Robert Lafrenière avait dit, en commission parlementaire, je vais pogner le bandit qui a fait ça. Bon, c'est la suite. L'enquête de l'UPAC n'a rien donné. Puis c'est le BEI qui a ramassé le dossier avec le projet Serment. Et on va beaucoup parler de la DPJ cette semaine. Il y a beaucoup d'informations qui seront publiées. Et il y a Mylène Moisan dans Le Soleil qui nous dit que le fameux commissaire à l'enfance, là, qu'on doit créer, c'est un poste à créer, là, ben là, c'est sur la glace. Je ne sais pas ce qui se passe à la DPJ. Puis je parlais avec des amis qui connaissent assez ça, là. En résumé, les cas sont de plus en plus nombreux. La pression sur les plaintes, sur la liste d'attente, c'est spectaculaire. Les jeunes qui sont recrutés comme intervenants, peu importe la nature, sont débordés, puis plusieurs quittent rapidement le système. Et là, vous avez la Commission des droits de la personne qui n'en a rien à cirer. Vous avez la DPJ nationale, la directrice nationale de la protection de la jeunesse, dont on se demande exactement ce qu'elle fait dans la vie. Puis là, on veut créer par-dessus un commissaire à l'enfance. Puis pendant ce temps-là, je lis ça ce matin dans le Journal de Montréal, le ministre Carman nous explique qu'il n'y a pas beaucoup de psychologues pour s'occuper des jeunes en détresse. Il y a quelque chose qui marche pas dans la machine de la DPJ, là. C'est pas de taper, au contraire, sur les intervenants de première ligne. C'est de leur donner une voix parce que on n'a pas retenu grand-chose de la commission Laurent. On n'a pas retenu grand-chose des manifestations des derniers mois, des dernières semaines, à travers différents médias, des gens qui œuvrent dans ce domaine-là. Gaz irritant dans le métro. On parle, encore une fois, des phénomènes de violence dans le métro. Alors, il y a eu des événements, et là, il y en a de plus en plus. Alors, vous avez vu agression dans un autobus, une bagarre qui a mal viré. Et là, on se rend compte maintenant qu'il y a eu trois événements liés à des gaz irritants en deux jours seulement qui ont perturbé le service de la STM la semaine dernière. Et semble-t-il que c'est assez difficile à contrôler. Ce sont des produits en vente libre. Et l'usage qui en est fait, bon, évidemment, ça peut être punissable, mais de l'autre côté, au total, en 2024, jusqu'à maintenant, là, il y a eu 11 incidents avec du gaz irritant. Le gaz qui a été utilisé dans le réseau par des usagers. Alors, c'est dans la presse que vous retrouvez ça ce matin. Le Journal de Montréal a un dossier sur l'anglais dans une école à Vaudreuil-Dorion où les élèves parlent l'anglais en classe dans une école secondaire francophone, considèrent que le français, c'est une source d'emmerdement, finalement, et des services de francisation qui sont quand même insuffisants. Et puis, je vais terminer avec le Globe and Mail ce matin concernant l'immigration. C'est tout le débat là qu'on fait toujours partiellement. T'sais, on a une discussion sur les travailleurs temporaires, on a une discussion sur les étudiants, sur les demandeurs d'asile. Là, on apprend que beaucoup d'étudiants étrangers, pas tellement au niveau universitaire, mais surtout au niveau collégial, qui entrent ici, sont très, très nombreux maintenant à faire des demandes de réfugiés. Alors, ils arrivent au Canada, s'inscrivent dans un collège, demandent le statut d'étudiant. Pour vous donner les chiffres, en 2018, il y avait 1515, à travers le Canada, là, étudiants qui réclamaient l'asile, donc le statut de réfugié. En 2023, on est passé de 1500 à 25 000. 25 000. Comprenez-vous pourquoi la machine est engorgée? Et on sait que le ministre de l'Immigration, Mark Miller, a commencé à resserrer la vis parce que c'est, on comprend, très payant pour les réseaux universitaires, pour le réseau collégial, mais ça met une pression énorme. Et les étudiants étrangers, ça demeure une valeur aussi, là. Pas se tromper, là. Des gens qui viennent étudier ici, qui peuvent s'établir ici, et quand on parle au Québec, donc qui apprennent le français, qui maîtrisent le français, ou encore qui retournent dans leur pays d'origine pour justement établir dans l'avenir des ponts. Mais il y a des gens qui viennent, par exemple, à McGill parce qu'ils veulent pas aller aux États-Unis parce que c'est trop cher, puis ils veulent étudier en anglais, et que c'est, malgré le fait que c'est plus cher là, que pour un étudiant québécois, ben ce sont des frais de scolarité nettement moins élevés.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
J'ai reçu un courriel en fin de semaine et j'ai été complètement renversé. C'est l'histoire tellement triste d'une jeune fille qui part en vacances avec son père à Cuba. Malheureusement, son père décède. Il faut rapatrier le corps au Canada. Il y a eu erreur sur la personne. Et son père n'est pas revenu. On sait d'ailleurs pas où il se trouve, la dépouille de son père. Et c'est le corps d'un citoyen russe qui a été envoyé ici au Canada. Je vous présente nos deux invités. Myriam Jarjour, qui est avec nous, qui est avec son père à Cuba quand il est décédé. Bonjour, Myriam.
Bonjour.
Et également, Anas Francis, qui est un ami de la famille. Bonjour, Monsieur Francis.
Bonjour, cher.
Myriam, je commence avec vous. Racontez-nous un peu les vacances à Cuba. Vous êtes partie seule avec votre père?
Non, on était 12 personnes.
12 personnes.
Oui, avec mes amis, mon cousin et sa femme, ma mère, mon père et mon frère aussi.
OK. Et vous étiez là en vacances pour vous amuser, pour vous distraire?
Oui, la deuxième journée, on est parti le 20, le 22. On est en train de nager, moi et mon père. Et il a eu une crise cardiaque dans la mer. C'est que j'ai commencé de crier. Et tout le monde qui a commencé de m'aider pour sortir de la plage, pour essayer de faire
le réanimer le plus possible.
Oui, mais le bizarre, dans l'hôtel, il n'y a pas de médecin. On a resté comme 45 minutes à une heure pour une médecin qui passe nous voir qu'est-ce qui se passe avec mon père, tout ça. Et après, ils ont laissé le corps sur le sable de 3h30 jusqu'à minuit.
3h30 à minuit?
Oui. Et il fait chaud là-bas, imagine.
Il n'y avait personne pour venir s'occuper du corps?
On attend toujours comme l'ambulance qui passe le chercher pour amener au Havana, parce que là-bas, il y a le frigo pour toutes les...
Et donc, de 15h jusqu'à minuit, votre père est resté là sur la plage?
Oui. Ouais.
C'est incroyable.
Aucun policier.
Rien?
Ils sont arrivés à minuit avec un auto normal.
Le policier, non. Il était là-bas après 2 heures, 3 heures. Ils ont juste ramassé le passeport. Et ils ont commencé à décrire qu'est-ce qui se passe. Et après, ils ont disparu.
Ils ont mis une couverture, puis c'est tout?
Oui.
Et vous, là, vous êtes en état de choc, là, j'imagine. Votre père vient de décéder. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous parlez avec l'hôtel? Est-ce qu'il y a quelqu'un?
J'ai parlé avec l'hôtel. J'ai parlé avec les consulats canadiens. Il m'a dit, vous allez venir lundi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, tout ça. Lundi, j'ai présenté avec mon frère au consulat. Il m'a dit que vous devez retourner au Canada. Il y a un numéro, vous devez l'appeler. Vous devez payer 10 000 $ pour transporter le corps.
Donc, on vous dit, vous pouvez même pas rester sur place. Non. Il faut revenir ici?
Ouais. Ouais.
Pour payer.
Pour commencer la procédure, on doit payer.
Donc, vous laissez la dépouille de votre père à Cuba, vous rentrez au Canada, tout ça pour payer, commencer les paiements, prendre contact avec cette compagnie qui vous est référée par le consulat canadien.
On a demandé si quelqu'un là-bas qui peut parler avec le gestion de consulat pour le paiement, et nous, on reste au Cuba. Il m'a dit que seulement moi que je peux parler, parce que mon nom, dans le demande de passeport, c'est mon nom, le nom urgent. Fait que seulement moi que je peux parler. Fait que j'étais obligée de retourner au Canada pour faire les appels, pour faire le paiement.
Quand vous avez fait les appels, qu'est-ce qu'on vous a dit? Ça s'est passé comment?
Personne qui a répondu. Je dois laisser un message vocal, imagine. Comme toute la journée, je reste, j'appelle et je laisse un message vocal et personne qui a répondu. Et après, comme j'essaie de faire les appels, mes amis, à la fin, on a envoyé un email pour le ministère d'Affaires étrangères. Et là, le gestion de cas, il m'a envoyé un email avec les formulaires que je dois remplir pour payer les 10 000. Je dois mettre mon carte de crédit et tout ça, mon nom et le nom de maison de funérailles qui va arriver au aéroport pour ramasser le...
Ça veut dire que la famille a payé le montant, le 10 000 $
Plus 15 000 au complexe funéraire.
C'est ça.
C'est 25 000 $ au total.
Ouais. Payé, il n'y a pas de corps. Elle n'a pas d'aide. Personne ne le répond. Elle a essayé d'appeler la députée plusieurs fois. Finalement, elle a reçu à le parler. Mais c'est tout déprimé. Il n'y a pas d'action. De l'argent payé. Un Russe arrivé, ce qui est épouvantable.
Ça, on va y venir tout de suite pour que les gens comprennent bien. Je rappelle, là, vous êtes en vacances avec votre père, des amis, des membres de la famille. Votre père décède, vous nagez avec lui. Le corps est laissé sur la plage. Personne s'en occupe. Il n'y a pas de médecin. Il n'y a personne qui récupère le corps. Et là, on vous dit de revenir ici, de prendre faire les démarches, payer le montant d'argent, donc le 10 000 plus le 15 000. Finalement, il y a une dépouille qui arrive ici au Canada. C'est pas votre père.
Non. C'est pas mon père. C'est une personne comme... Il est 20 ans...
plus jeune.
Plus jeune que mon père. Il a des cheveux. Mon père, il a pas de cheveux. Il a des tatouages. Mon père, il a pas de tatouages.
Et ça, vous l'avez constaté de quelle façon? Vous avez quoi, identifié le corps? Comment ça s'est passé? Oui.
Elle a demandé d'ouvrir le cercueil, elle puis sa mère. Puis ils ont regardé. Ben, le nom de son père est sur le cercueil. Certificat de décès produit au nom de son père. Et photocopie de son passeport. Puis mauvaise personne. Je crains pour sa mère plus.
Non, mais c'est certain.
Ça va
là.
Pas bien à la maison.
Ça veut dire qu'on a un corps ici qui est un Russe, un citoyen russe, et votre père, on n'a aucune idée où il se trouve. La dépouille de votre père, on ne sait pas.
On ne sait pas, il est où, jusqu'à là.
Mais parler de ce citoyen russe, il a été récupéré, entre guillemets. Là.
Oui, il a été ce que la députée a informé Myriam,
elle
il a été récupéré par le consulat russe, déjà. Fait qu'il n'a même pas resté 24 heures au Canada. Là.
Il est reparti. Le corps est reparti.
Il a été récupéré avec professionnalisme, si j'imagine, reparti en Russie. Mais le corps de son père, maintenant, est où? En Russie? Était-il échangé? Son passeport est avec lui? Est-ce que son passeport est tracé? C'est quoi la solution? C'est une tragédie.
C'est horrible. D'abord, la mort de votre père, c'est horrible, mais tout ça, là, de plonger la famille dans une espèce de scénario qui n'a aucun sens, là, qui manque de respect, oui?
Et je veux juste mentionner quelque chose. Oui. Le bureau Région 5, gestion des cas consulaires en Ottawa, ils ont fait parvenir premièrement un certificat
de décès ou?
Non, pour brûler. Incinérer le corps, puis ramener...
Les cendres.
Les cendres. Puis c'est pas ça qu'elle a payé pour. C'était moins cher, incinération. C'était 7 000 $, elle a payé 10 000 pour encore. Puis là, elle a renvoyé pour dire, non, c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai payé pour. Moi, je veux mon père. Et pas
les cendres.
Et pas des cendres. Puis là, ils ont corrigé le certificat. Donc...
Mais là, vous ne savez pas si votre père est incinéré. Vous ne savez pas si, comme vous dites, il est rendu en Russie, puis on ne sait pas trop. Et est-ce que vous avez, devant cet amoncellement de questions, toutes ces questions-là, avez-vous des réponses? Vous me dites, ça commence un peu du député ou la députée fédérale. Là.
Oui.
Mais les services consulaires, là, le gouvernement canadien... là.
Le consulat là-bas, au Cuba, le consulat canadien, il fait rien. Il n'a pas nous aidé. Il m'a dit, moi, je peux rien faire. Vous devez retourner au Canada, vous devez appeler et payer.
Mais comment le consulat canadien peut répondre une telle chose? Par définition, un consulat, c'est pour aider les Canadiens qui sont en difficulté. C'est leur job de faire ça. Puis ils ont dit non.
Oui, ils ont dit non. Même là, quand j'ai parlé avec
la députée.
Députée, ils m'ont dit que oui, c'est pas le responsabilité de consulat, c'est pas le job de consulat, c'est le compagnie qui transfère le
corps. Oui, mais cette compagnie-là vous est référée par le consulat.
C'est ça.
Elle était engagée par le consulat, en fait. Elle a pas payé la compagnie, elle a payé le gouvernement. Moi, je vous commande, je vous paye pour un produit dans le monde logique.
Oui.
Mais je veux le produit que j'ai payé 10 000 pour. Je m'en fous que. Tu l'as donné à une compagnie X, Y.
C'est à vous que je l'ai donné.
C'est à vous
avec qui j'ai fait l'entente.
Comment ça vous avez rentré un Russe sans vérifier? Mettons qu'il y avait d'autres choses dans le cercueil. Vous vérifiez pas qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous comparez pas les photos?
Je sais pas quoi vous dire, mais on va faire quelques téléphones parce que c'est inacceptable. C'est un deuil en plus. Là. C'est pas juste...
C'est un deuil de famille. Tu sais... Puis encore une fois, si son père n'est pas retrouvé, il arrive quoi? Il arrive quoi à sa mère, premièrement? Comme j'ai dit, là, elle était déjà, elle pèse dans le monde idéal à 80 livres. Là. Puis ça fait un mois qu'elle ne mange pas, elle ne dort pas, sa mère. Puis c'est normal, je me mets à sa place. T'sais. Le prêtre vient le voir, mais ça change quoi? Puis c'est tout des... Encore une fois...
Faut qu'elle fasse son deuil,
ouais.
Comme on dit.
Puis là, on répète... C'est les députés qui ont pris action il y a deux jours. C'est juste des actions. On va faire. Mais elle n'a pas de contact. Là. Elle a aucun numéro. Elle ne peut même pas faire suivi aux députés même. Donc, elle cherche des réponses. Elle est prête à aller à Havana aussi. Mais elle a besoin d'aide. Elle ne sait pas à qui s'adresser. Si le consulat ne l'aide pas, est-ce que l'ambassade va l'aider? Non.
Merci d'être venu ce matin. On va garder le lien et on va essayer de vous donner un coup de pouce dans la mesure qu'on peut le faire. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne chance à vous. Myriam Jarjour, qui est la fille de Farah Alaa Jarjour, qui est décédée à Cuba. Et Anas Francis, qui est un ami de la famille. Donc, monsieur est décédé. La dépouille de monsieur est introuvable. Et le gouvernement canadien ne fait rien pour aider à retrouver le corps et soulager la famille et permettre à cette famille de faire leur deuil. Vous imaginez, on envoie un citoyen russe, mélange de corps, mélange de papier, et les Russes sont meilleurs que les Canadiens pour s'occuper des dépouilles de leurs concitoyens.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
La taxe sur l'immatriculation des voitures. On sait qu'au point de départ, c'était pour les Montréalais seulement que la taxe était imposée. Et puis, graduellement, on l'a élargie à d'autres villes tout autour de Montréal. La presse rapportait au cours des derniers jours que les maires du Grand Montréal envisagent, jonglent avec l'idée d'augmenter la taxe, qui est de 59 $, par exemple, à 100 $, puis peut-être même 200, donc une augmentation substantielle, tout ça pour financer le transport en commun, alors que la ministre Guilbeault tarde à faire connaître ses couleurs et parle plutôt de mener des enquêtes, des audits là, sur les finances des sociétés de transport. Le maire de Laval est avec nous, Stéphane Boyer. Monsieur Boyer, bonjour.
Bon matin, M. Arcand.
Pour les gens de Laval, cette taxe sur l'immatriculation, ça a commencé au début de l'année?
Oui, exact.
Et les Lavalois payent combien?
C'est 59 $ dans le fond pour toutes les municipalités du Grand Montréal depuis le janvier dernier.
OK. Là, quels sont les scénarios avec lesquels vous travaillez?
Ben, en fait, c'est je pense que le débat va au-delà de la taxe immatriculation. Puis je pense que c'est important de le rappeler aux auditeurs. C'est plus de 500 millions par année qui manquent pour financer le transport en commun. Et donc, on est devant un choix qui est très difficile, qu'on devra prendre en 2024. Soit on fait plus de financement public du transport en commun pour le maintenir, ou on réduit de manière importante le service du transport en commun. Et donc, l'ARTM, récemment, qui fait la planification dans le Grand Montréal, a soumis aux élus municipaux différents scénarios pour dire, OK, si on souhaite maintenir le transport en commun, voici différentes options. Dans toutes ces options-là, la taxe de matriculation revient à différents niveaux, parce que c'est cette taxe-là que les élus municipaux ont le choix, en fait, ont le pouvoir d'utiliser, soit celle-là ou les taxes municipales générales. Mais il n'y aura pas de magie. C'est-à-dire que si on n'augmente pas cette taxe-là, ça risque de devoir venir par un autre moyen, la taxe de l'essence ou les impôts, ou sinon, il faudra réduire de manière vraiment importante le transport en commun.
OK. On comprend que vous avez le pouvoir de le faire, là. Vous ne demandez pas la permission de Québec, vous pouvez décider de l'imposer.
Oui, exact.
Ça veut dire aussi que actuellement, puis on va se parler franchement, c'est une partie de bras de fer entre la ministre puis vous. Là. Quand je dis vous, je parle des maires, là, qui n'a pas dans le budget d'indications très claires sur les intentions, sur le financement du transport collectif. Quand je parle au ministre des Finances, il m'explique qu'il y a de l'argent disponible, c'est aux sociétés de prendre l'argent puis de mieux gérer. Ce que le gouvernement nous dit, c'est que les sociétés de transport sont mal administrées.
Ouais, ben je pense que les, je vous dirais, il y a deux choses importantes à dire là-dessus, puis je crois que l'enjeu dans lequel on est, c'est qu'il n'y a pas un élu qui veut annoncer des coupures du transport en commun, puis il n'y a pas un élu non plus qui veut annoncer des augmentations de taxes ou d'impôts. Ça fait plaisir à personne. Donc oui, il y a une certaine, une part du conflit vient de là. Cela étant dit, il faut qu'on reste quand même responsable. Je pense qu'on a des devoirs à faire comme élus, puis on doit discuter de ces options-là. La ministre a annoncé des audits financiers l'année dernière. Donc, ces audits-là viennent tout juste de commencer. Ils seront prêts à l'automne. Bien personnellement, j'ai aucun problème avec les audits. Tant mieux si ça nous donne des pistes de solutions pour réduire les factures. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ça ne sera pas suffisant. Ça fait déjà 2 ans qu'on re-questionne le transport en commun puis qu'il y a des coupures. À Montréal, il y a eu plus de 200 employés licenciés. À Montréal, on a coupé 41 postes. Sur la Rive-Sud, il y a eu plusieurs lignes d'abolies. Donc, on a déjà récupéré plusieurs millions. Puis peut-être qu'on va réussir à trouver encore un peu de gras à gauche ou à droite. Mais jamais ça va être suffisant pour combler le 500 millions de déficit. Même si les audits nous identifient 40 millions de plus, il reste qu'il y a un immense trou à combler, puis la chicane est un petit peu à ce niveau-là, à savoir comment ce grand trou-là, on le comble. Et moi, un des messages que je souhaite, ou une des discussions que je souhaite avoir avec la ministre et avec mes collègues élus, c'est de dire, avant de parler d'une hausse de taxes d'immatriculation, il y a aussi d'autres options de réformes qui ont été discutées et qui serait important de statuer là, avant de dire qu'est-ce qu'on hausse la taxe des citoyens. Donc, je vois sûr qu'on a fait le tour du jardin sur les grandes réformes potentielles avant d'hausser les taxes.
OK, mais M. Boyer, est-ce que c'est un bluff? Est-ce que c'est du chantage? Ou est-ce que vous allez le faire si vous n'avez pas ce que vous voulez?
C'est pas un bluff du tout. Je vous dirais, on est un petit peu... on a le couteau à la gorge. Donc, l'année dernière, on a réussi à boucler les budgets, entre autres, en prenant les REER de la RTM. Donc, ça veut dire qu'il y avait de l'argent qui avait été mis de côté pour faire des investissements dans des projets d'infrastructure. On l'a utilisé pour boucler le budget. Mais cet argent-là, le compte est rendu vide pour 2025. Et donc, on veut éviter de se retrouver dans le même scénario que l'année dernière. Donc, c'est pas un bluff, là. C'est vraiment... le transport commun est vraiment à la croisée des chemins à l'heure où on se parle.
OK. Sur la base, là, l'immatriculation, c'est par voiture sans tenir compte de l'utilisation de la voiture.
Oui.
On s'entend pour dire, là, si on est sur la planète Terre, que les gens qui vivent à Laval, les gens qui vivent en banlieue, la plupart, là, puis les gens qui ont des familles, ont besoin, disons, d'un véhicule par famille. Je pense que c'est pas exagéré. Pourquoi je paierais des augmentations de 200% strictement parce que je suis propriétaire d'un véhicule qui fait partie de la vie, véhicule essentiel à la vie de la plupart des gens? Pourquoi vous n'êtes pas plus créatif, imaginatif, puis que vos stratégies de taxes tiennent pas davantage compte de l'utilisation des véhicules?
Écoutez, moi, je suis d'accord avec vous. Si on veut un mode de taxation qui tient plus compte de l'utilisation de la voiture, à ce moment-là, il faudrait y aller avec la taxe sur l'essence. Au niveau de l'municipalité, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Donc, on essaie de travailler avec les outils qu'on a à notre disposition. Mais moi, avant de parler de ça, et j'ai fait une lettre ouverte là ce matin dans la presse pour dire qu'il y a aussi d'autres scénarios. Puis peut-être que je peux vous donner des exemples concrets. Là. On parle de la crise de l'habitation. On a des centaines de stations de métro, de gares de train, de stationnements incitatifs en ce moment. Et dans bien des cas, les terrains appartiennent soit à l'ARM, soit au gouvernement du Québec. Mais on pourrait construire du logement par-dessus ça. Et j'ose croire que quand on achète un condo ou qu'on loue un logement au-dessus d'une station de métro, ben on devient utilisateur de ces métros-là, on achète des billets, donc ça augmenterait les revenus de transport en commun. Un autre exemple, il y a plusieurs organismes en ce moment qui gèrent le transport en commun, que ce soit la STM, la STL, l'EXO, la RTM. On pourrait peut-être penser à diminuer le nombre d'organismes pour qu'il y ait un ratio de de gestionnaires qui serait moindre. Mais ça va prendre des réformes qui seront importantes. Puis je pense que avant de dire qu'on augmente la taxe de 150 ou 200 $, faudrait s'entendre sur c'est quoi les grandes transformations qu'on peut mettre de l'avant, parce que des idées, il y en a plein, on en discute depuis un certain nombre de temps.
Mais monsieur Boyer, moi je vois aller ça là,
sur le chemin à prendre.
Oui, je vois aller ça depuis longtemps là. On parle de taxer les espaces de stationnement par exemple des grands centres commerciaux. On parle de taxer comme pratiquement, on voit dans plusieurs villes, le kilométrage parcouru, la technologie le permet. Les maires du Grand Montréal, là, parlent beaucoup, beaucoup, puis à chaque fois me parlent aussi des nombreuses structures inutiles, là, ou en tout cas pas très performantes, puis qu'il faudrait faire des réformes. C'est parce que, j'allais dire, vous parlez haut et fort, mais il n'y a pas grand-chose qui change.
Ben, il n'y a pas grand-chose qui change parce que il y a trop de personnes qui ont qui tirent la couverte, c'est-à-dire le transport est géré par la RTM, par les maires, par le gouvernement du Québec, par la CMM. Il y a tellement de gens autour de la table que c'est difficile d'avoir un consensus.
Mais comprenez-vous pourquoi j'ai pas envie de vous faire un chèque quand vous êtes si nombreux autour d'une table à pas vous entendre, puis m'aller nourrir votre bureaucratie?
Moi, M. Arcand, j'ai pas plus envie que vous d'envoyer des chèques aux citoyens. Et c'est pour ça qu'on doit avoir du leadership, il faut avoir du courage, il faut mettre de l'avant les réformes dont on jase depuis longtemps. Mais en même temps, pour ça, on doit avoir un signe de vie de la ministre. Ultimement, Québec, c'est lui qui a le pouvoir de changer les lois, de changer les structures dans le transport en commun pour espérer réduire la bureaucratie, pour nous autoriser à construire du logement par-dessus les stations de métro pour augmenter les revenus autonomes. Donc, les idées sont sur la table. Ce qui manque en ce moment, à mon avis, c'est surtout quelqu'un qui va être capable d'organiser tout ça, puis de caler la chute, puis de dire... C'est l'option A, B, C, D qu'on met de l'avant et avec lesquelles on va régler le problème. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas dans la manière où ça fonctionne actuellement.
OK. En terminant, M. Boyer, la voiture de police à presque 100 000 $ qui a été achetée par la ville, qui est conduite ou qui a été conduite par le directeur, M. Brochet, pendant 4 mois. Comment ça se fait qu'on a acheté cette auto-là? Puis comment ça se fait que c'est le directeur de police là, qui, aux dernières nouvelles, ne fait pas de poursuite, qui l'a utilisée?
Oui. En fait, la voiture a été... Nous, les élus, on a donné l'orientation d'électrifier toutes les voitures de la ville au moment de les remplacer. En 2022, il y a une voiture qui a été achetée pour faire un projet pilote dans le service de police. J'étais pas au courant, mais en effet, ça semble être une Mach-E qui a été achetée. Il avait les talents d'appel d'offres l'année dernière pour acheter d'autres véhicules. Donc, les Mach-E n'ont pas été visés par la ville. Il y avait plusieurs modèles. En fait, il fallait qu'il y ait 400 km d'autonomie. Ça aurait pu être une Kia, ça aurait pu être une Toyota. Mais il y a eu un seul soumissionnaire, qui était Ford Canada, qui a soumissionné avec les Mach-E. Après ça, est-ce qu'on aurait dû aller de l'avant avec l'appel d'offres, considérant le modèle qui a été reçu? Je suis d'accord avec vous que peut-être qu'on aurait dû prendre une décision différente. Mais là, à l'heure où on est, là, les voitures, elles ont été achetées et elles vont être utilisées par la police, pas seulement par le directeur, mais par tout le monde au sein du service de police.
OK, mais comment ça se fait que c'est le directeur qui conduit le véhicule?
Je crois que l'idée, c'était... En fait, il y avait de la réticence au chargement de la service de police. Dans le corps policier, beaucoup de personnes disaient « Ben non, une voiture électrique, ça fonctionnera pas. Nous, on en a besoin. » Entre autres, parce que les voitures de police ont beaucoup d'équipements. Ils ont des radios, ils ont des ordinateurs, ils ont des gyrophares qui sont pluggés sur la voiture. Il y avait une inquiétude, est-ce que ces équipements-là vont épuiser la batterie trop vite? L'idée était d'avoir une voiture. Le directeur de police, c'est ce qu'on m'a expliqué, la personne cadre qui habite le plus loin du territoire, Levallois. Donc, l'idée, c'est de voir est-ce que l'autonomie est suffisante. C'est ce qui a été discuté à l'époque.
OK, mais ce que je lis dans le Journal de Montréal, c'est qu'il n'y a pas eu de rapport. Là. Il devait y avoir une analyse savante de l'efficacité du véhicule, mais ça n'a pas été fait.
Moi, quand ça a sorti dans le journal, là, il y a une semaine ou deux, j'ai eu une rencontre avec mon directeur de police, justement, pour faire un peu la lumière sur ce qui s'était passé. Ce qu'on m'indique, c'est que, en effet, ça a été testé. On a essayé, entre autres, l'autonomie en période hivernale, c'est 220 km. On a jugé que c'était satisfaisant pour les besoins. Donc, on a considéré le projet pilote concluant.
OK. Monsieur Boyer, on va se parler franchement, vous et moi, là. Vous vous achetez pas ça. Moi non plus, vous êtes pogné avec.
Oui, mais à partir de là...
Non, je le sais, ils sont là, les chars, je le sais. Là, mais moi, je crois pas cette version-là, puis vous non plus, là, puis je comprends. Puis c'est très habile, vous faites bien, vous dites, on m'a dit, on m'a indiqué que, là. Mais je sens dans votre ton de voix que vous achetez pas ça plus que moi.
Ben, c'est sûr, moi, j'ai pas été à l'aise avec tout ça. Puis je me suis questionné la semaine dernière, quand il y a eu tous les articles... Est-ce qu'on revend pas, est-ce qu'on donne pas la consigne de revendre des voitures? Mais les revendre à perte, non. Je suis pas sûr que c'est la meilleure des options non plus. Fait que c'est certain que je suis pas à l'aise dans ce dossier-là. Mais bon, ça arrive des fois à faire des erreurs dans la vie. Je pense qu'on va, ça va être lessons learned pour la prochaine fois.
OK. Merci, M. Boyer.
Merci à vous.
Au revoir. Stéphane Boyer est le maire de Laval. Maintenant, je vais vous parler de la COVID longue. Régulièrement, il y a des auditeurs qui m'envoient des messages sur justement les symptômes qu'ils ressentent. Ils ont eu la COVID, ont l'impression que ça traîne, que la fatigue est toujours accablante. Et on avait des chiffres la semaine dernière qui disaient que le nombre de patients qui étaient en attente d'une place en clinique de COVID longue avait augmenté quand même de quoi? 700% en un an. C'est environ 5000 personnes qui attendent. Il y a 15 cliniques au Québec. Puis je me suis dit ce matin, tentons de voir... Qu'est-ce que ça veut dire, la COVID longue? Qu'est-ce qu'on a appris depuis les derniers mois sur ça? Dr. Carl Weiss est avec nous. Bonjour, Dr. Weiss.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, qu'est-ce qu'on sait de la COVID longue là, depuis que la pandémie est terminée et qu'il y a un nombre élevé de patients?
Bon, on sait des choses et on sait aussi pas grand-chose. C'est-à-dire, on sait que ça existe, c'est clair, mais c'est un syndrome qui est hétérogène. C'est-à-dire que c'est un ensemble de symptômes. Je vous dirais, il faudrait le regarder de la façon suivante. Imaginez-vous un grand ballon avec plein de petits ballons à l'intérieur de ce grand ballon, mais que ces petits ballons-là n'ont pas forcément de rapport entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des problèmes plutôt respiratoires, d'autres qui ont des problèmes neurologiques, d'autres qui ont des problèmes de fatigue, mais c'est pas quelque chose qui est un syndrome unique, uniciste, donc un type de maladie. Le deuxième problème qu'on a avec la COVID longue, c'est que malheureusement, on n'a pas de test pour vous dire vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Pour moi, ce serait facile de dire à un patient, vous avez une hépatite B ou vous ne l'avez pas, vous avez une hépatite C, vous ne l'avez pas, mais je n'ai pas de test pour dire vous avez la COVID longue ou vous ne l'avez pas. Donc, c'est un diagnostic un petit peu d'exclusion avec des critères qu'on essaie d'avoir, mais qui sont des critères un peu subjectifs. L'idée, c'est que quelqu'un qui a fait la COVID, donc la maladie aiguë, 12 semaines après avoir fait cette maladie-là, se retrouve avec des symptômes qui persistent et qui le rendent incapacitant à faire, disons, d'avoir une vie normale. Donc, qu'est-ce qu'on pense qui est en arrière de la COVID longue? Il y a des théories actuellement, mais il n'y en a pas une qui a été prouvée, je vous dirais, plus efficace ou meilleure que l'autre. Est-ce que c'est une hyperactivation du système immunitaire? Est-ce que c'est une persistance de certains virus à certains endroits? Est-ce que c'est un problème de microbiome? En réalité, il y a, je pourrais dire, une 150 théories, mais il n'y en a pas une qui s'est détachée par rapport à une autre de façon évidente. Donc, c'est pas un problème facile à gérer. Malheureusement, il y a des gens qui sont pris avec ça. On n'a pas de traitement non plus efficace dans le sens que, encore une fois, on n'a pas, j'aimerais dire aux patients, j'aimerais ça vous donner 6 semaines de tel médicament et vous allez avoir 90% d'amélioration. Malheureusement, ça n'existe pas. Donc, on est obligé d'utiliser, je vous dirais, un ensemble de techniques, de conseils dans différentes options pour différents patients. Il y a des patients, par exemple, leur problème, c'est le sommeil et c'est la fatigue et c'est l'incapacité de faire des efforts. Il y a d'autres patients, leur problème, c'est plutôt la concentration ou l'incapacité de travailler. Donc, on voit que c'est pas quelque chose d'uniciste auquel on a affaire. Donc, c'est ça le problème actuellement de la COVID longue. Il y a de la recherche qui se fait dessus, mais il y a eu à l'échelle planétaire, je vous dirais, une certaine diminution, un certain désintérêt. Puis là, je mets ça entre guillemets, de la recherche dans le domaine de la COVID longue par rapport à ce qu'on a vu au début, tout de suite après la COVID.
Il y a des auteurs qui me disent, je sais pas si c'est la COVID longue, puis ce que vous venez de décrire comme symptômes, difficulté, par exemple, de se concentrer ou d'avoir des nuits de sommeil convenables, ça peut être autre chose aussi.
Tout à fait. Alors, c'est pour ça que quand on évalue des patients qui ont la COVID longue, entre guillemets, on s'assure aussi de faire des tests pour éliminer d'autres conditions. Et il arrive à l'occasion qu'on trouve d'autres conditions qui sont des conditions médicales, qui ont parfois des solutions en termes de traitement ou d'approche qui sont différentes. Donc, bien sûr, il faut s'assurer que ces gens-là, on leur donne pas un label COVID longue et qu'on fait abstraction de ce qui pourrait être une autre maladie. Donc, tout à fait, dans tous les patients qui se présentent pour de la COVID longue, il y a un ensemble, je dirais, de tests, d'investigations à faire pour éliminer d'autres maladies qui, elles, sont peut-être sont traitables plus facilement sur certains aspects.
Bon, deux questions importantes. D'abord, est-ce qu'on a vu des cas de gens qui ont eu la COVID longue et qui ont finalement, en termes de mois ou de semaines, je sais pas, retrouvé une certaine vie normale?
Oui, tout à fait. Alors, il y a quand même un certain nombre de patients qui s'améliorent après un an. Ça dépend des études, là encore, parce qu'il faut faire très attention dans ce domaine. Il y a beaucoup de gens qui publient un peu tout et n'importe quoi. Donc, il y a des gens aussi qui veulent publier pour publier. Vous savez, malheureusement, en médecine, il y a une espèce de course à la publication. Mais de façon générale, il y a quand même un certain nombre de gens, et c'est ce qui est réconfortant, qui s'améliorent. Et on le voit, il y a quand même des gens qui s'améliorent de façon très significative et qui retourne à une vie presque normale. Donc, c'est quand même encourageant. Souvent aussi, ce qu'on dit aux gens qui ont la COVID longue, c'est que ça ne modifie pas leur espérance de vie. Il faut aussi comprendre, et ça c'est très très important, on est en 2024 et on parle de la COVID-19. C'est-à-dire que ça fait juste 5 ans qu'on est aux prises avec cette maladie-là. Donc en médecine, 5 ans c'est rien du tout, hein, c'est pas très long. Et on a encore beaucoup d'inconnus et beaucoup à apprendre là-dessus. Donc on peut pas dire aux gens, vous savez, on a une expérience de 15 ans sur la COVID longue et donc on est capable de vous dire ceci ou cela. Mais ce qu'on voit, c'est que les gens à date, sur une courte période de temps, qui ont un diagnostic de COVID longue, ne semblent pas avoir, par exemple, plus de cancers que la population générale, ou ont un taux de mortalité plus élevé que la population générale pour le même groupe d'âge, etc. Donc, cet aspect-là est quand même réconfortant et on essaie au moins de le souligner.
Bon, y a des gens, semble-t-il, qui sont tentés d'aller au Mexique pour payer un traitement expérimental avec cellules souches. Vous en pensez quoi de ça?
Ben, malheureusement, c'est que dans ce genre de choses-là, les gens sont un peu désespérés. Des fois, on peut les comprendre sur un aspect personnel. Ils ont essayé toutes sortes d'approches et rien ne semble fonctionner. Alors, ils peuvent très souvent tomber, vous savez, dans, je vous dirais, les griffes de toutes sortes de traitements qui n'ont pas été prouvés de façon efficace. On voit des gens qui vont tout essayer, vous savez, c'est malheureusement ce qui arrive. C'est pas juste avec la COVID longue. On voit ça en médecine avec des fois certains types de cancers, certains types de maladies autres comme le lupus ou l'arthrite rhumatoïde, où les gens veulent essayer d'autres thérapies qui n'ont pas été prouvées. Donc le problème, c'est que lorsque les gens s'embarquent dans ce genre de choses-là, ils s'embarquent un petit peu dans l'inconnu, quel type de médecine ils vont recevoir, la qualité des soins, etc. Vous savez, c'est un petit peu comme les Québécois qui vont faire de la chirurgie esthétique à l'extérieur du Québec et qui reviennent ici avec toutes sortes de complications qu'on est obligé de traiter. Donc, moi, je dirais à ces gens-là de faire attention et de prendre toutes leurs précautions avant de s'embarquer dans des traitements qui n'ont pas été prouvés efficaces.
Merci beaucoup. Bonne journée, Dr. Weiss.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Dr. Carl Weiss, qui est microbiologiste et chef de la division des maladies infectieuses de l'Hôpital général juif de Montréal.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Après des semaines de débats, la Chambre des représentants aux États-Unis a finalement approuvé samedi un budget d'aide de 61 milliards de dollars à l'Ukraine. Alors qu'on le sait actuellement, c'est une guerre qui s'enlise, l'Ukraine qui subit une offensive importante de la part des Russes. Il y a des sommes également qui sont prévues pour Israël, pour les Palestiniens, pour Taïwan. Mais Jean-François Lépine qui est avec nous, c'est surtout le changement d'attitude du président de la Chambre, Mike Johnson, qui fait la manchette. Bonjour Jean-François.
Ah oui, bonjour Paul.
Alors évidemment, c'est un changement de cap important là.
Oui, il y a beaucoup de médias qui spéculent là-dessus depuis samedi, comment expliquer le changement de cap qui a fait en sorte que Mike Johnson a présenté une motion susceptible d'être adoptée par les deux partis au Congrès, puis pour enfin débloquer toute cette crise du financement, entre autres, qu'on destine à l'Ukraine. Je veux simplement rappeler, Paul, que Mike Johnson a été élu président de la Chambre il y a 6 mois à peine. Avant ça, là, c'était un simple représentant de la Louisiane qui refusait d'accepter, comme d'autres républicains, les résultats des élections de 2020, qui niait le résultat. C'était un fidèle de Trump, un sympathisant du mouvement MAGA. On dit que l'accession au deuxième poste politique en importance aux États-Unis a fait en sorte que, en fait, il a été confronté depuis 6 mois, pour la première fois de sa vie, à des informations stratégiques dont il n'avait aucune conscience. Il faut, un président de la Chambre, ça participe au briefing de sécurité de la Maison-Blanche. Il a accès au président américain quand il le veut. Il a accès au leader du Sénat. C'est presque intimidant pour un personnage qui n'avait pas du tout cette formation-là, ce qui aurait contribué, semble-t-il, à changer son attitude sur la question de fond, l'Ukraine en particulier, le sort des Ukrainiens, une question qui aurait, selon ce qu'il a dit lui-même, bouleversé ses valeurs chrétiennes. D'ailleurs, quand il a annoncé le résultat du vote samedi, il avait presque les larmes aux yeux en disant qu'il avait opté pour l'avenir de la paix, en mettant de côté les affiliations partisanes. On voit donc le changement de cap. À la suite de ça, il risque gros parce qu'il va faire face aux républicains radicaux qui n'ont pas pardonné ce compromis-là. Mais c'est un homme qui a changé. C'est ça qui est assez intéressant.
Mais jusqu'à quel point il va demeurer en poste? On a l'impression que les républicains vont peut-être, en tout cas une certaine partie des républicains, organiser une rébellion contre lui.
Ouais, c'est la grande question, mais... on pense aussi que, étant donné que la campagne avance aux États-Unis, que les républicains voudront pas avoir l'air un peu ridicule et encore une fois, à un si court délai, changer à nouveau de président. Mais on verra, ça va être intéressant.
Bon, parlons de ce budget de 61 milliards. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que ça va changer?
Alors, ça va permettre à l'Ukraine, à terme, quand ça va arriver, c'est la grande question, de se procurer des systèmes de défense antiaérienne de plus par rapport à ce qu'ils ont déjà, des missiles de moyenne et de longue portée, des obus d'artillerie, tout ce dont les militaires ukrainiens ont un besoin urgent sur la ligne de front terrestre où ils perdent du terrain face aux Russes, des missiles aussi capables d'intercepter les missiles balistiques russes qui détruisent depuis des semaines les infrastructures énergétiques de l'Ukraine et qui s'attaquent aussi aux civils. Donc, de résoudre à terme la pénurie de munitions qui a permis à la Russie de gagner au cours des derniers mois, pendant qu'il y avait ce vacuum là depuis décembre dernier d'approvisionnement de la part des États-Unis en particulier. Donc, ça avait permis aux Russes de gagner, on dit, 350 kilomètres de territoire en Ukraine. Les 6 derniers mois d'attente là, du budget américain ont été très coûteux pour l'armée ukrainienne. Le Kremlin a réagi en disant que cette décision-là d'allouer un autre 61 milliards à l'Ukraine allait ruiner l'Ukraine. Il y a une crainte, en effet, Paul, que la Russie réagisse rapidement en menant une offensive importante pour profiter de la vulnérabilité de l'Ukraine d'ici à ce que le pays reçoive l'aide rendue possible par le budget. Parce que c'est ça l'importance de la situation. L'arrivée de l'aide ne se fera pas immédiatement, mais ça permettrait à Kiev de contrer la suprématie aérienne de la Russie, de couper les liens d'approvisionnement de l'armée russe, de réduire les avancées russes sur le terrain. Ça permettrait aussi à l'armée ukrainienne, ça c'est important, de former une relève. Hein. On parle de conscription, d'augmenter le rythme de la conscription. Ça permettrait aussi à l'Europe, puis on pense que ça va entraîner l'Europe à augmenter sa capacité de production d'armes destinées en grande partie à l'Ukraine, et puis à d'autres pays qui sont en retard dans leurs promesses à l'endroit de l'Ukraine, comme le Canada en particulier, de pouvoir rattraper le rythme et de livrer ce qu'ils ont promis à l'Ukraine. Mais le temps est court, Paul. L'armée russe a 15 % d'effectifs de plus qu'en février 2022, quand l'invasion a commencé. Des troupes fraîches et une aide militaire importante de la part de la Corée du Nord et de l'Iran, surtout en termes de drones et de missiles, aide de la Chine aussi pour des pièces d'équipement militaire. Bref, le temps est court et le budget en lui-même ne résoudra pas tout, et pour combien de temps d'ailleurs?
Bon, maintenant parlons d'Israël, parce qu'il y a des montants, des budgets qui ont été alloués, 26 ouais. milliards, mais il y a quand même des sommes pour l'aide humanitaire aux Gazaouis. Et on le voit, les Américains donnent de l'argent, puis en même temps menacent, font de la pression pour essayer de trouver une solution à ce conflit.
Ben, c'est un peu le dilemme des États-Unis depuis le début du conflit à Gaza. On veut bien aider Israël, mais on fait pression aussi pour que les dirigeants soient plus malléables, plus qu'on contrôle davantage le carnage qui se déroule à Gaza et qui est loin de finir. Là, même le premier ministre Netanyahou l'a annoncé en fin de semaine, il y aura d'autres coups durs pour les Gazaouis et à Gaza. D'ailleurs, les bombardements ont repris sur Rafah, cette ville du sud où sont concentrés la grande majorité des réfugiés du conflit à Gaza. Israël a aussi lancé, ça c'est important, une offensive militaire dans un camp de réfugiés, le camp de réfugiés de Nour Shams, dans le nord de la Cisjordanie. Ça, c'est les territoires occupés du côté est d'Israël, et dont on parle pas beaucoup, mais l'offensive en fin de semaine a fait plusieurs morts. Les Israéliens parlent d'une opération antiterroriste, mais les Palestiniens sont pas d'accord, prétendent que c'est un faux prétexte, et ils ont déclenché une grève dans l'ensemble du territoire de la Cisjordanie en représailles. Faut rappeler là, que ce territoire-là, on parle beaucoup de Gaza, mais du côté de la Cisjordanie, qui est un territoire occupé où la population palestinienne est encore plus importante, il y a plus de 500 civils palestiniens qui sont morts depuis le 7 octobre dernier. Des affrontements se produisent tous les jours entre Palestiniens et l'armée israélienne, mais surtout avec les colons israéliens qui occupent le territoire illégalement et qui sont armés jusqu'aux dents. D'ailleurs, Washington a annoncé, Paul, ça c'est important, son intention, tu en as parlé plus tôt ce matin, d'imposer des sanctions contre un bataillon de l'armée israélienne, un bataillon de juifs ultra-orthodoxes. Les juifs ultra-orthodoxes ne participent pas au service militaire normalement et demandent des conditions extrêmes, extrêmement particulières quand ils joignent l'armée. Entre autres, ils ne sont pas, les hommes ne sont pas mélangés avec des femmes. C'est un bataillon ultra-orthodoxe extrêmement incontrôlé, incontrôlable depuis quelques années. C'est un bataillon au sein des forces israéliennes qui s'appelle Netza Yehuda, qui a été accusé de violence contre les Palestiniens. On avait même dû les expulser de Cisjordanie en décembre 2022. Le premier ministre Netanyahou conteste la décision de Washington d'imposer des sanctions. Il était en colère hier au moment de sa conférence de presse hebdomadaire, mais c'est une situation qui montre à quel point il y a des éléments incontrôlés au sein même de l'armée israélienne qui pose problème. Et d'ailleurs, tout ça se passe, Paul, au moment où le chef du renseignement militaire de l'armée ouais. israélienne, le major général Aaron Khaliva, a annoncé sa démission. C'est le premier haut responsable israélien à démissionner depuis le 7 octobre dernier. Il dit, il reconnaît avoir failli dans le rôle de l'armée de détecter des indices et de prévenir le massacre du 7 octobre dernier, un massacre qui a fait, je le rappelle, 1200 morts du côté Israël, mais qui a provoqué aussi, à cause des représailles qui continuent à Gaza, la mort de plus de 34 000, on est rendu là, civils palestiniens sur ce territoire-là. C'est aujourd'hui le début de la Pâque juive. Normalement, on s'attendrait à une accalmie, on verra, au cours des 8 prochains jours. Mais, je le dis en passant, on n'a toujours pas de nouvelles d'un éventuel cessez-le-feu qui devait être établi il y a longtemps pour au moins une période de 2 mois.
Et puis en terminant, il faut absolument parler des élections en Inde. C'est absolument incroyable. Une démocratie, 1 milliard d'électeurs, c'est le 10e de la population mondiale. Et le vote va s'étaler sur 6 semaines.
Oui, c'est fou. C'est un vote qui se déroule en 7 étapes. Dans 7 régions différentes du pays. C'est tellement complexe. C'est la plus grande élection au monde. 12 millions de travailleurs d'élection là, dans les bureaux de scrutin, etc. Il y a 18 millions de nouveaux électeurs, des jeunes qui entrent et qui votent pour la première fois. Tout ça pour combler 543 sièges du Lok Sabha, le Parlement indien. Le premier ministre sortant, Narendra Modi, et son parti, le BJP, sont au pouvoir depuis 10 ans. Il est favori pour obtenir un 3e mandat de 5 ans. Et simplement pour l'histoire, son principal opposant, Rahul Gandhi, qui dirige le Parti du Congrès, un parti qui fait partie de la politique indienne depuis 140 ans. Eh bien, Rahul Gandhi, c'est le petit-fils d'Indira Gandhi, sa grand-mère qui était première ministre, et son père aussi qui a été premier ministre par la suite, Rajiv Gandhi. Tous les deux ont été assassinés. Hein, c'est le drame de la dynastie des Gandhi qu'on compare souvent au drame de la dynastie des Kennedy aux États-Unis. Donc, une élection importante parce que l'Inde est le pays le plus peuplé au monde, la plus grande démocratie. Le leadership de Narendra Modi est critiqué pour ses pratiques antidémocratiques. Il a arrêté des dirigeants de l'opposition avant l'élection, dont le maire de Delhi, qui est très populaire. C'est aussi le promoteur, Paul, d'un régime hindouiste ou hindou intégriste dans un pays qui compte pourtant 200 millions de musulmans. On dit que c'est le 2e pays musulman le plus important au monde si on calcule l'importance de sa population musulmane, où depuis que M. Modi est au pouvoir, on a assisté à une augmentation importante des violences à l'endroit des minorités religieuses, musulmanes et chrétiennes. Mais M. Modi est malgré tout très populaire. En 10 ans, il faut le dire, l'Inde est passée du 13e au 5e rang des puissances économiques mondiales. C'est à surveiller. Il promet de faire passer le pays au 3e rang derrière les États-Unis et la Chine s'il est réélu. Le vote, Paul, se termine le 1er juin. Donc, tu l'as dit, dans plus de 6 semaines, un défi de faire en sorte qu'un exercice aussi long et complexe se déroule dans l'ordre.
En terminant, Jean-François, je veux, au nom des auditeurs et en mon nom personnel de l'équipe, te féliciter parce que la semaine prochaine, tu vas recevoir la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Bravo.
C'est gentil, Paul. Merci beaucoup.
C'est 23.